Bonjour, ici Roger Malina, je suis ravi de vous accueillir sur Creative Disturbance avec Bernard Stiegler et Colette Tron. Colette, tu te présentes rapidement ?
Alors, je dirige une association qui s'appelle Alphabetville, qui prend son origine dans le titre d'un film de Godard qui s'appelle Alphaville, qui est un film sur une ville automatisée et ultra contrôlée, et où il est question de déconditionner les consciences. Et c'est un petit peu, je crois, aussi le sujet de l'art de l'hypercontrôle.
Bon, Bernard, tu te présentes ?
Je suis prof de philosophie, je dirige l'Institut de recherche et d'innovation au Centre Pompidou, qui travaille au développement de software un peu alternatif dans le contexte de l'économie de data. Et je suis président de l'Ars Industrialis, qui est une association très pluridisciplinaire qui essaye d'inventer un nouveau modèle industriel à partir de ces technologies.
Ok, très bien. Donc, ce qu'on voulait discuter un peu cette fois, c'est ce concept de l'art de l'hypercontrôle. Et en effet, comment des groupes de gens peuvent peut-être interagir avec le système qui est en train de mise en place, le détourner. Et en effet, j'ai fait la remarque que quand on parle de système cybernétique, ce qu'il faut créer, c'est d'autres boucles de rétroaction. Donc peut-être tu veux un peu parler un peu de comment tu vois cette idée de l'art de l'hypercontrôle et comment des groupes de gens pourraient intervenir sur le système.
Alors d'abord, pour moi l'art de l'hypercontrôle c'est une question politique. C'est-à-dire que je pense que l'hypercontrôle pose une énorme question politique à l'échelle cosmopolitique qui est l'avenir de la planète, dans le contexte de l'Anthropocène. Et je pense que dans ce contexte-là, chacun d'entre nous, que nous soyons artistes, scientifiques, académiques, citoyens, consommateurs, est responsable d'une situation qu'il faut arriver à prendre en charge collectivement. Donc l'art de l'hypercontrôle, c'est d'abord une capacité à faire travailler ensemble les artistes avec des scientifiques, des juristes, des acteurs économiques et des citoyens. Deuxièmement, c'est un art qui réfléchit aux conditions technologiques que nous appelons nous organologiques de la vie en commun et qui ne rejette pas la technologie du tout, mais qui pose en principe ce que disait Gilles Deleuze, c'est qu'il est toujours possible de devenir la quasi-cause de ce qui nous arrive de manière accidentelle, c'est-à-dire de ce qui nous arrive et que nous n'avons pas voulu. Par exemple, une maladie. Marcel Proust, c'est un écrivain génial qui a en fait transformé sa maladie en une œuvre d'art, parce que Marcel Proust était un asthmatique. Et son asthme est intrinsèquement lié à son écriture. Il le dit lui-même très clairement.
C'est le stimulus de sa création.
Exactement. Il a fait donc, comme disait Deleuze à propos de Joe Bousquet, il a fait de sa blessure sa volonté. C'est ce que disait Bousquet. Je veux être ma blessure. Bon. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un développement technologique très accidentel aussi, parce que qui aurait cru que Facebook existerait il y a 10 ans ? Personne, à commencer par Zuckerberg lui-même, qui ne voulait pas du tout créer un réseau social, il voulait courir les filles. Donc c'était pas du tout son problème de créer. Mais c'est devenu cette espèce de réseau monstrueux. Quand je dis monstrueux, je veux dire qui s'est développé d'une manière absolument, totalement hors norme. Et qu'est-ce que l'on fait de ce social networking aujourd'hui, du point de vue d'un art de l'hypercontrôle ? On l'analyse, on le pense, on ne le rejette pas simplement, mais on le critique. Et on le critique non pas pour le dénoncer, mais pour inventer quelque chose à partir de cette invention-là, de quelque chose de nouveau. Parce que cette invention-là a des effets très toxiques. Comme toute technologie. Pour nous, une technologie comme l'écriture pour Socrate, c'est un pharmacon. C'est toujours à la fois un poison et un remède. Et le rôle d'un savant, le rôle d'un citoyen, le rôle d'un artiste, c'est de trouver le côté curatif du poison.
Alors
Colette,
tu t'es raccroché rapidement à cette idée de l'art de l'hypercontrôle. Alors comment tu vois la chose ? Quelles sont les possibilités ? Comment tu aimerais que dans les années à venir, ça se décline ?
Alors, je pense qu'il y a un travail conceptuel et théorique. Enfin, le premier chantier, pour moi, il est là quand même. C'est-à-dire qu'il va falloir évidemment identifier qu'est-ce que ça veut dire cet art de l'hypercontrôle, mais il va falloir aussi identifier comment fonctionne l'art aujourd'hui, qu'est-ce que peuvent les artistes, qu'est-ce qu'on peut. Il y a une question centrale qui me semble être quand même la question économique. C'est-à-dire que si le système fonctionne comme Bernard le décrit, c'est qu'il y a des enjeux économiques aussi à analyser. Et que ça, il me semble que... Enfin, c'est ça, hein, l'idée de travailler ensemble. Hein, c'est d'essayer de comprendre les enjeux de toutes ces structures complexes.
Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui. C'est qu'en effet, si on regarde le monde artistique aujourd'hui, il est en pleine mutation. Et en effet, un des développements qu'on voit un peu partout, et je vais utiliser ta phrase, de la coopérative des disciplines. Et alors peut-être tu pourras la décliner un peu. Mais c'est vrai qu'on commence à voir des artistes qui travaillent en groupe avec des entrepreneurs, avec des juristes, avec des économistes, avec des scientifiques d'autres disciplines, pour faire du travail en commun. Hein, mais qui peut-être a des finalités différentes pour chacun des participants. Alors peut-être tu peux élaborer ton idée de coopérative.
Je voudrais juste faire une précision. C'est que la collaboration interdisciplinaire dans les arts, elle n'est pas nouvelle. Je crois que là, il va falloir vraiment sortir du seul secteur de l'art pour travailler avec d'autres. Il y a aussi des questions qui sont posées par Bernard Stiegler, qui sont celles des catégories et qui posent un certain nombre de problèmes en art. Là, j'ai lu dernièrement un livre de Peter Berger, qui est un philosophe allemand, qui s'appelle Théorie de l'avant-garde, qui date des années 70, mais qui a été traduit très récemment, et qui pose la question de l'art face à l'institution art, et de qu'est-ce qu'on fait des catégories en art après la liquidation des catégories par les avant-gardes. Voilà, et ça me semble être quand même une question importante.
La question fondamentale pour moi de cet art de l'hypercontrôle, c'est d'abord d'inventer ces instruments, et ces instruments de coopération. Aujourd'hui, il existe des plateformes qui se substituent d'ailleurs progressivement et dangereusement au web. Je suis moi-même extrêmement mobilisé contre la destruction du web par les plateformes. Ces plateformes reposent sur effet de réseau, Graphe de Moreno, etc., etc. Mais aussi sur un principe qui est que les membres de la plateforme, qui sont la production bottom-up, ne peuvent pas modifier les systèmes top-down de traitement des données. Nous pensons qu'il faut au contraire développer de nouvelles architectures qui reposent en principe sur le fait que tout contributeur peut intervenir sur la transformation et l'exploitation des données par le système. Et ça, c'est extrêmement important et ça pose le problème précisément des catégories. C'est aussi pour ça que je rebondis sur ce que vient de dire Colette. Pourquoi ? En fait, au départ du web, l'idée de Tim Berners-Lee et de la communauté de scientifiques qui a créé cela au CERN, l'Institut de physique de Genève, c'était de renforcer les controverses scientifiques, c'est-à-dire d'intensifier la négantropie dans le champ de l'information scientifique pour produire du savoir, parce que tout le monde sait, tous les savants savent, que c'est dans les controverses que se produit du savoir. Mais ce qui est vrai dans le champ scientifique est vrai dans le champ linguistique. Par exemple, la dynamique d'une langue, ça passe par la possibilité de valoriser les processus idiomatiques, que ce soit les dialectes dans les sociétés traditionnelles, ou bien la littérature, Marcel Proust, dont je parlais tout à l'heure, comme capacité d'invention linguistique qui va sans cesse réenrichir le fond partagé. Nous croyons aujourd'hui, nous, qu'il est très important de transformer les architectures de réseau pour permettre aux individus de produire ce que nous appelons un web herméneutique, et à partir de là, de renforcer la négantropie. Je dis cela aussi pour revenir sur ce que disait Colette à propos de l'économie. Nous sommes dans une économie aujourd'hui qui repose sur un court-termisme, qui exploite à très court terme des processus anthropiques, mais qui détruit à long terme. Nous savons tous très bien que l'avenir n'est pas là. L'avenir est dans une économie de la négantropie. Et cette économie de négantropie suppose d'inventer de nouvelles infrastructures.
Je rebondis sur... Parce que moi, j'étais en Californie dans les années 90, hein, avec la naissance du web, et il y avait tout ce discours plus très, très techno-optimiste que le web allait connecter tout le monde avec tout le monde. Et rapidement, on a découvert l'homophilie, hein, qu'en effet, le web concentre les gens qui ont les mêmes opinions plutôt que diversifier les opinions. Et en effet, que pour créer la négotrampie, il faut injecter de l'énergie. Hein, donc, dans un système, enfin, la raison pour laquelle un système, la vie biologique a développé, c'est qu'en effet, il y a une injection d'énergie qui permet la négotrampie d'être créée. Et donc, en effet, alors c'est clair que les moteurs de recherche, Google et tout le monde, exploitent la tendance naturelle d'homophilie, où en effet, les gens qui pensent exactement la même chose se retrouvent sur le web et la diversité n'est pas encouragée. Alors, comment vraiment injecter de l'énergie dans le système pour créer ce contre-courant?
Nous, notre conviction, c'est que c'est la nouvelle génération des MOOC qui devrait apporter cela, et que tout le système académique devrait reposer sur l'intensification des controverses. J'ai créé cette école qui s'appelle pharmacon.fr, qui a 1000 étudiants réguliers, qui a 25 000 occasionnels. Et nous avons commencé à installer l'année dernière un processus où nous demandons aux individus qui suivent les cours de tracer leur compréhension avec des systèmes de prise de notes qui sont très simples à mettre en œuvre d'ailleurs, mais qui permettent de montrer que finalement, par exemple, dans un cours qui est suivi, il y a 3-4 groupes qui vont se distinguer parce qu'ils vont s'affilier, justement, c'est de l'homophilie, parce que les uns sont plutôt des idéalistes, l'autre plutôt des matérialistes, etc., etc. Et que, à partir de là, des modèles d'interprétation vont s'opposer. Et ça va créer de la diversité, ça va créer de la négantropie de fait. Mais pour que ce soit possible, il faut des architectures de réseau qui le permettent. Aujourd'hui, les architectures ne le permettent pas.
Colette, tu veux rebondir un peu là sur... Parce que là, on est et surtout sur le rôle de l'artiste. Alors, tu as parlé des catégories. Alors, c'est clair qu'on est dans des démarches d'artistes qui sont plutôt de l'ingénierie système que création d'œuvres pour le particulier.
Donc, je voudrais revenir peut-être sur la question de l'automatisation, parce que c'est ça aussi la question des big data, je crois. Et peut-être sur la question du pharmacon, il y a évidemment deux aspects. Je crois qu'il y a eu un séminaire à l'IRI sur langage et automatisme. Alors, on emploie un peu le même mot, mais chez les surréalistes, l'écriture automatique, c'était justement pour se libérer de certains automatismes et de certains fonctionnements de la pensée. C'est lié aussi à la psychanalyse, hein, à l'apparition du concept d'inconscient. Donc il y a les deux aspects. Là, il y a un artiste que tu connais peut-être qui s'appelle Christophe Bruno, qui travaille aussi sur le capitalisme linguistique et qui utilise les systèmes pour montrer justement leur entropie et cette destruction de la langue. Il a fait un système qui s'appelle Human Browser, ce navigateur humain, et où les individus finalement répètent des mots les uns après les autres. C'était aussi un des systèmes de l'écriture automatique. Soit on fait de la création, soit on a une langue qui se détruit. Et pour moi, c'est des questions culturelles fondamentales.
Alors malheureusement, il va falloir s'arrêter là. Alors je te remercie, Colette, d'avoir terminé la discussion avec un exemple concret d'un artiste qui fait du travail qui te semble pertinent, qui s'appelait Christophe Fouineau. Bon, bah, écoutez, Bernard, merci. Colette, merci. À la prochaine.